I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Lettre sonore numéro 22. Cher coronavirus, épisode 4. Après. Cet épisode est une fiction sonore.
Cher Julien, je me souviens du premier été qu'on a passé ensemble à Kerlouan. On devait avoir 8 ans. On a partagé des après-midi entiers à faire l'inventaire des bestioles qu'on trouvait dans le jardin. J'arrachais les pattes des sauterelles et toi, à chaque fois, ça te faisait pleurer. C'est peut-être là que je suis tombée amoureuse.
Salut Émilie, je viens de voir ton post sur Facebook, bravo à toi et à Antoine, c'est une chouette nouvelle, enfin, je suis super content pour toi, pour vous, et puis c'est bien que vous ayez mis ça sur Facebook, voilà. Enfin, je veux dire, je trouve ça assez courageux, en tout cas ça fait plaisir de lire un truc joyeux en ce moment. Enfin, j'espère que c'est quand même pas trop bizarre d'attendre un bébé alors qu'on est enfermé, puis on sait pas trop de quoi demain sera fait. Voilà, sinon, comment vas-tu? Tu bosses toujours dans la même agence qu'il y a 4 ans. T'es pas obligé de me répondre si tu trouves ça bizarre. Allez, salut.
Ça me fait drôle qu'on ait autant changé. 30 ans ont passé depuis ce premier été et 30 jours depuis le début du confinement, alors. Le temps de lire cette lettre, laisse-moi te convaincre une dernière fois que tout est encore possible.
On vous le disait, les notes vocales nous ont sauvés. Et si on continuait à les utiliser, mais pour inventer une histoire cette fois-ci? Très fortement inspiré de faits réels, vous allez le comprendre, c'est le 4e et dernier épisode de notre série « Cher coronavirus » et c'est donc notre toute première fiction.
Vous pouvez enregistrer votre message.
Salut Julien! Merci pour ton petit message. Je t'avoue que j'ai un peu hésité à publier la nouvelle sur Facebook, mais bon... En fait, c'est cool, il y a plein de gens qui nous ont envoyé des petits mots très mignons.
Quoi? Oui, ok, j'arrive. 5 minutes.
Désolée, c'est les enfants d'Antoine. C'est un peu la panique, là, parce que... Antoine passe sa vie à l'hôpital en ce moment, donc c'est moi qui m'occupe des affreux. Je sais pas si tu te souviens d'eux. On les avait croisés par hasard une fois, on était... à ce super hôtel à Saint-Malo. Et on était tombés sur Antoine et sa copine et leurs deux enfants. Enfin, c'était des bébés à l'époque. Enfin, bref. En tout cas, nous, ça va parce qu'on a la terrasse, on peut voir le ciel et même prendre le soleil.
Oui, oui, j'arrive.
Bon, je te laisse... donne-moi des nouvelles. Hein, t'étais pas très bavard dans ton dernier message.
Émilie, ça fait si longtemps qu'on ne sait pas parler, qu'on ne sait pas vraiment parler. Il y a des mots que j'ai tellement envie de te dire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est seulement maintenant, alors qu'on vit ce confinement, que je trouve le courage de t'écrire cette lettre. Ça m'a fait drôle d'apprendre que tu allais devenir maman. Forcément, moi je me demande à nouveau si un jour je serai prêt à accueillir un enfant. prêt à donner la vie dans un monde qui disparaît. Je pense à cet enfant et à ce que tu vas lui transmettre. Ton regard si positif sur la vie dont je me suis tant moqué. Ta conviction à toute épreuve qu'on va s'en sortir, quoi qu'il arrive. Tu sais, Émilie, je ne suis pas aussi sombre que tu le penses. J'essaie d'être positif, et c'est pas simple. Mais franchement, j'essaie.
Ok, je vais essayer de t'en dire un peu plus. Moi, ça va. Écoute, je suis parti à Kerlouan le jour où Macron a annoncé le confinement. Du coup, là, je suis avec mon frère, ma sœur, mes parents. L'ambiance est un peu bizarre. Ma sœur passe son temps à râler, elle dit qu'elle s'occupe des repas. Enfin bon. En même temps, moi, je m'en fous, je pourrais bouffer des pâtes tous les jours. Je t'avoue que j'ai un peu hésité à rester chez moi, mais... j'avais peur de passer trop de temps à regarder le plafond. Bon, après, façon seule ou pas, de toute façon, on me harcèle sur Facebook, WhatsApp, et même des trucs qui sortent de nulle part, genre la Zoom et House Party. En tout cas, la distanciation sociale, c'est pas pour tout de suite, faut croire. Voilà.
Comme la diable ! Comme la diable !
What's just happened ?
I don't know.
There's a fire in the turbine hall.
The turbine hall.
Chère Émilie, j'ai commencé la série Tchernobyl. Dans le premier épisode, nous sommes la nuit de la catastrophe. Le directeur de la centrale s'entête à voir ça comme un incendie autour d'un réacteur. Alors qu'en réalité, un réacteur a littéralement explosé. Et puis, il y a cette scène. Cette scène qui m'a hanté plusieurs nuits. Quelques instants après l'explosion, les habitants de Pripyat, à 3 km de la centrale, viennent sur un pont observer le spectacle. La lumière du réacteur en miettes. Les particules radioactives comme des traînées de poussière dont on perçoit seulement la magie. De tous ceux qui ont observé depuis le pont ukrainien l'élégant crépuscule de l'humanité, il n'y a plus aucun survivant. Ce pont, plus tard, on l'a appelé « pont de la mort ». Quelle différence avec nous, lovés dans nos plaids, en train de liker la catastrophe en gif animé sur Twitter. J'entends tous ceux qui pensent que ça y est, on va pouvoir enfin réinventer le monde, le réenchanter. J'y crois pas, moi, à ce monde de l'après.
C'est cool, Julien, que t'aies pu rejoindre ta famille à Kerlouan. T'as trop de chance. Y a toujours les moutons de Monsieur Guillou dans le champ d'à côté ? C'était l'horreur quand le mec de l'abattoir venait avec son camion. Ah, désolée, là, je suis en train de cuisiner. Je fais un tagine, s'il te plaît. Ouais, un tagine. Bon, globalement, je me fais quand même un peu chier, donc je me suis mise à la cuisine à fond, là. Juliette, attention, regarde où tu mets ton pinceau. Mais non, non, tu gardes ta blouse. Tu l'en mets partout, sinon. Martin, aide-la. Mais tu vois bien qu'elle n'y arrive pas. Par contre, ça me fait bien marrer de t'imaginer enfermée depuis un mois avec ta sœur. T'as dû vouloir l'étrangler au moins 10 fois, non? Tu lui fais un bisou pour moi? Hein?
Ce matin, en buvant mon café, j'ai mentalement fait la liste de tout ce que j'aurais fait ces 2 derniers mois si le monde n'avait pas arrêté de tourner. J'aurais acheté de la pâte à tarte toute faite au supermarché et des jouets en plastique pour les enfants d'Antoine. Je me serais payé une jupe pour fêter le printemps, probablement made in Bangladesh. J'aurais sûrement même pas regardé l'étiquette. Et puis en fait, tu sais que j'ai découvert que c'était super facile de faire de la pâte à tarte soi-même. 250 g de farine, 140 g de beurre, 2 cuillères d'eau et tu malaxes. J'ai porté le même short et les mêmes leggings pendant 2 mois. Avec Juliette et Martin, tous les jours, on a regardé les abeilles butiner les fleurs de notre terrasse. Inlassablement, les mêmes allers-retours. Les pattes dans le pollen, hop, la trompe à l'intérieur du pistil. Et on ne s'est pas ennuyé. Jamais. Tu vois, comme beaucoup de gens de notre génération, ce n'est pas tellement que j'en avais rien à faire de l'environnement, que j'étais irresponsable ou égoïste, mais c'est plutôt qu'à ma petite échelle, ça me semblait insignifiant, et même hypocrite de faire des petits gestes comme si c'était ça qui allait sauver la planète. Est-ce que j'ai été conne de te croire ?
Entendu soulevé hier par Edouard Philippe, l'utilisation d'un outil de traçage permettant d'alerter les personnes ayant été en contact avec des malades du coronavirus. L'application Stop Covid fera bien l'objet d'un débat et d'un vote, mais ultérieurement, pour l'heure, le dispositif...
Non mais c'est dingue cette histoire de Stop Covid. On est quand même en train de voter l'utilisation d'une appli qui va tous nous tracer. Tranquille. C'est marrant, hier soir, j'ai lu une interview d'Alain Damasio qui disait un truc là-dessus. Alors, attends, je te retrouve parce que le truc est dingue. Ah ouais, voilà. Alors, l'empreinte du confinement préforme un renoncement. Parce qu'on y expérimente une liberté très restreinte, qu'on s'y sera plié par nécessité puis par habitude. L'expérience qu'elle tatoue en nous m'inquiète. Ah mais j'adore ce mec, c'est génial. Je sais plus si t'avais déjà lu ses bouquins, toi. Ah merde, attends, il y a ma sœur qui m'appelle. Ouais, je sais pas si t'entends là, mais elle parle de notre groupe WhatsApp de famille. C'est un truc qu'on a lancé pendant le confinement. On se dit des trucs super essentiels, genre à table, qui éteint la machine. Ma mère, elle appelait cette conversation bienveillance. Elle dit qu'il faut qu'on soit sympa entre nous, enfin qu'on se chambre pas, quoi. Voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'entendre ta voix.
Julien !
J'ai passé des nuits dans le noir, avec ce bébé au fond de mon ventre, sans trouver le sommeil, à essayer de trouver un sens à tous ces morts dans les EHPAD, à ces infirmières à bout de souffle et de nerfs, aux gamins enfermés dans leurs 30 mètres carrés, aux couples qui n'ont pas survécu au confinement. Dès la deuxième semaine, j'ai interdit à Antoine d'allumer la télé et la radio. J'avais envie de vomir ces bilans macabres. Et puis, une minuscule fenêtre lumineuse dans la pénombre de ma chambre. Là, un soir sur mon écran de téléphone. Des rorquals ont été aperçus au large de Marseille. L'espoir, là tout près. Un article du Parisien en date du 9 avril. Un fait rare, probablement dû au confinement qui a vidé le parc national des Calanques des visiteurs et de leurs bateaux. On n'avait pas vu cela depuis très longtemps. J'en ai chialé ce soir-là. De comprendre enfin que tout ce qu'on était en train de vivre avait un peu de sens. En Inde, l'Himalaya est visible à 200 km pour la première fois depuis 30 ans. À Nantes, les riverains de l'aéroport entendent à nouveau les oiseaux. En Camargue, un baby-boom de flamants roses est attendu dans les semaines à venir. Je l'ai ma réponse là. Si la nature reprend si vite ses droits après quelques semaines de confinement, tu vois bien que c'est possible. Possible de faire machine arrière, de changer nos habitudes de vie, de consommation. Possible de donner un second souffle à la planète. Et c'est possible aussi d'avoir envie de faire des enfants. Julien.
Je ne sais pas si tu t'emportes comme avant. Le rouge joli sur tes joues, les larmes parfois au bord des yeux, le regard colère et le menton qu'on peut voir trembler si on est bien attentif. Je m'emporte rarement comme ça. On m'a mis dans la tête que ça ne se fait pas. Mais, et je l'ai compris très récemment, c'est quand on n'exprime pas sa colère qu'elle devient de la rage. Une rage qu'on n'arrive pas à contrôler, qui fait du mal. La colère porte en elle quelque chose de constructif, si on sait bien l'exprimer. Elle naît de l'envie de changer les choses quand celles-ci ne nous conviennent pas. J'aimerais être en colère comme toi, mais je n'y arrive pas.
Je parle pas trop fort parce que tout le monde dort là. Antoine aussi. C'est la folie dans son service. Toutes les infirmières tombent malades les unes après les autres. Je suis hyper étonnée qu'il ait pas encore chopé le Covid, lui. Dis, en fait, je me demandais... tu crois que tu pourrais demander à ta mère si elle a toujours le berceau qui était dans votre grenier? Je sais, c'est con, mais... Il était trop beau et elle m'avait dit qu'elle me le donnerait. Et là, j'arrête pas d'y penser. Enfin, peut-être que ta sœur le voudra aussi, je sais pas, mais... Ça me ferait plaisir de la voir. Si ça te dérange pas de lui demander, j'ose pas trop lui écrire parce que ça fait super longtemps.
Cher Julien, je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai compris que nos deux visions du monde nous sépareraient à tout jamais. C'était l'été de nos 20 ans. Et ce jour-là, on était partis sur la côte, à vélo. J'aimais tellement ces moments-là. Agathe, Simon, Lola, moi, et toi. Toi surtout. La veille, tu étais partie chasser avec ton oncle. Tu t'en es vanté. On s'est pris le bec tous les deux tellement violemment que les autres ont rien compris. Tu m'as dit que j'avais pas de leçon à te donner. Puis t'es devenu méchant. Tu m'as dit que j'étais idiote de croire que le monde pouvait changer. Que les choses resteraient moches. Et que je ferais mieux de m'y habituer. Je crois que c'est ce jour-là que tu m'as déçue pour la première fois.
Vous allez...
Hello. Bon alors, l'attente. Je sais pas si t'entends derrière.
Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le point sur...
C'est mon père. Maintenant, il travaille pour une boîte qui vend des montres. J'arrive jamais à me souvenir le nom, un truc qui appartient à LVMH.
Geoffroy, donc on a revu le budget. A priori, sur le chiffre d'affaires, on serait à moins 10% par rapport au...
Et là, il est en visio avec son boss. Et il parle perte, comme si c'était le truc qui comptait en ce moment. Bon, en même temps, hier, il m'a dit... On se sent quand même bien inutile par rapport aux médecins, aux infirmiers. Mais tu vois, je voulais te faire entendre ça parce que... En fait, je suis en train de réaliser un truc. En fait, tu vois, pour mon père, pour son patron, pour plein d'autres, l'après, ça va être juste le moment de rattraper. C'est tout. Et ils vont même pas ralentir, ils vont juste s'inquiéter de leur chiffre d'affaires.
L'Himalaya, les flamants roses, je sais que c'est un détail à tes yeux. Pour toi, la fin du monde reprendra de plus belle après le confinement. Mais moi, tu vois, je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. On ne pourra plus jamais dire que c'est trop compliqué de changer nos habitudes. On est bien capable de rester cloîtrés chez nous pendant 2 mois pour sauver des vies, non? En tout cas, une chose est certaine. Moi, je me sentirais coupable de ne pas m'y mettre. Fabriquer ce qui est possible... Savon, shampoing, cosmétiques, cuisiner des gâteaux plutôt qu'acheter des biscuits emballés dans du plastique par milliers, cesser de partir en week-end au Maroc avec Antoine quand ça nous chante. Je sais que tu ris de ma petite liste bien proprette de bourgeoises gaucho-écolo. Tu as sûrement raison. C'est facile de prendre de bonnes résolutions quand tu es propriétaire d'un 3 pièces et que tu as un boulot qui te laisse le temps de penser. Mais je sais tout ça. Alors tu veux quoi? Que je la ferme, que je continue ma vie, tout pareil. Parce que je serai jamais assez digne de mon discours. Alors oui, d'accord. J'assume de faire partie de ceux qui ont attendu de se prendre une claque pour réagir. J'assume d'être une privilégiée qui a les moyens de ses rêves. J'assume mes contradictions. Je suis pas parfaite, mais je ferai ma part, comme je peux. Et pas seulement pour me donner bonne conscience. Mais parce que maintenant, tu vois, j'y crois, à nouveau. Au moins, j'aurais essayé. Toi, t'as jamais voulu essayer, rien tenter. T'as toujours eu peur d'échouer. De pas être à la hauteur, la peur des tripes, celle qui paralyse. Quand je repense à ton argument bidon, quand tu me disais « le monde est trop laid pour faire des gosses », c'est vraiment minable de dire un truc pareil.
Je doute qu'on apprenne quoi que ce soit de nos erreurs, Émilie. Les compagnies aériennes prévoient un retour à la normale d'ici quelques années. Il y a quelques jours, ils ont coupé l'eau potable au bord du canal Saint-Denis, là où s'approvisionnent de nombreuses personnes exilées. Le MEDEF annonce déjà qu'après la crise, il faudra travailler plus. Qu'est-ce qui va changer alors ? La vitesse à laquelle on atteindra le fond du gouffre ? Il y a des moments où je vous admire, toi, les autres, vos idéaux. Et puis, je vous trouve juste naïf. J'arrête pas de penser à cet enfant qui est dans ton ventre. Je me demande comment tu lui parles, ce que tu lui racontes du monde dans lequel il s'apprête à atterrir. Et je me demande même si cet enfant, finalement, je ne l'aurais pas rêvé avec toi.
Venez d'écouter Cher Coronavirus, une série en 4 épisodes du podcast Postscriptum. N'hésitez pas à écouter les 3 autres épisodes sur votre application de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à Postscriptum et nous noter avec des petites étoiles. Vous êtes notre plus belle publicité.